Martin Thomas Côté et Tania Clouston.
Clouston?
We have a problem.
Le show du matin.
97 Geek. 7h30 pile, ça va être froid à deux places aujourd'hui au Saguenay. Moins 17, ressenti à moins 20 la nuit prochaine. On sera à moins 9 comme maximum aujourd'hui. Et au Centre Bell, ça va être frais aussi. Mais en fait, ça va, je pense, la conférence de presse a lieu plutôt à Brossard. Mais reste que le congédiement de Marc Bergevin, là, c'est la chose qui le fait le plus jaser après le nouveau variant de la COVID. À travers la planète médiatique au grand complet, donc deux éclipses hier, vous avez eu le variant de la COVID en fin de semaine et le congédiement tout croche, maladroit de Marc Bergevin qui l'a appris via les médias sociaux durant le match de samedi, alors qu'évidemment son bras droit a appris qu'il n'était pas sur les rangs pour remplacer Marc Bergevin, fait qu'il a décidé de démissionner. Puis là, Marc Bergevin a su contenter de le remplacer. J'ai comme l'impression qu'il devait le savoir quand même déjà, mais on va en parler avec Martin McGuire qui suit évidemment les activités de l'équipe. Martin McGuire, bon matin.
Bonjour, bon matin.
Depuis le mois de juin, j'ai l'impression, en fait le mois de juillet, que cette équipe-là navigue d'erreur en erreur.
Ah, il y a des erreurs qui ont été faites bien avant le mois de juin. Pour en arriver à ce que s'est passé au mois de juin, au mois de juillet. Au mois de juin, il était encore en finale. Il n'y a pas trop d'erreurs qui se sont faites là. C'est quand même un peu plus tard. Si on reculait le ruban, on pourrait le reculer quand même assez loin dans tout le passage de Marc Bergevin à Montréal. En ce qui a trait aux circonstances de son départ, là, c'est vrai que Scott Mellenby, en démissionnant et en confiant certaines informations à un journaliste à l'extérieur du marché, a court-circuité un peu le problème, là, a court-circuité la décision de Jeff Molson. Est-ce que le processus aurait été un peu plus long? Peut-être. Mais en même temps, moi, je pense que le propriétaire du Canadien, son idée était faite depuis un certain temps, parce que si il avait décidé de ne pas prolonger le contrat de Marc Bergevin l'an dernier, à pareille date l'an dernier, souvenez-vous, là, on est en saison morte. Mm-hmm. On vient de finir la bulle. Le Canadien avait surpris en éliminant les Penguins de Pittsburgh. Ils s'en vont en deuxième ronde. Là, ils sont éliminés parce que c'est une équipe qui n'a pas les ressources pour aller bien plus loin. Et là, dans l'entre-saison, Marc Bergevin part, fait quelques embauches. Et après ces embauches-là, Jeff Molson ne trouve pas juste de prolonger le contrat de Marc Bergevin. Probablement qu'à ce moment-là, il se dit « Je vais voir comment les choses vont se passer avec les nouvelles embauches, puis on se parlera après. » Sauf qu'il n'y a jamais eu de « On se parlera après. » Alors moi, j'ai l'impression que Marc Bergevin n'est pas du tout surpris de ce qui s'est passé en fin de semaine.
Ouais.
Ceci dit, l'autre portion de ma réponse, je pense que il s'est écoulé des saisons où là, le propriétaire du Canadien a décidé de poursuivre avec Marc Bergevin, alors que beaucoup de monde pensait que c'était terminé à ce moment-là. Pour quelques erreurs quand même assez graves que Bergevin a commis au niveau, premièrement, de l'évaluation du personnel, autant son personnel autour de lui, et là, je parle bien sûr de Trevor Timmons et des faibles résultats du Canadien au repêchage, le fait que la philosophie du directeur général en est une, puis que tu regardes les joueurs que le Canadien sélectionne depuis les 4-5 dernières années, puis ils ont pas l'air du tout en accord avec ce que le directeur général va chercher après dans le milieu des échanges. Sur le pavé des échanges, on va chercher des gros gars costauds, physiques, puis le recruteur-chef va chercher des joueurs plus petits, de la vitesse puis de la finesse. Ça marche pas.
Ouais.
Alors, ça fait pas 6 mois. Ça fait quand même plusieurs années. Et le Canadien s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas développé de talent pour assurer la relève des joueurs. Et on n'a pas non plus développé de talent pour assurer la relève chez les entraîneurs, chez les recruteurs et dans tout l'organigramme. Ça, c'est le règne de Marc Bergevin.
Et pourtant, son plan quinquennal en 2012, je me rappelle, on disait qu'on allait bâtir via le repêchage. Et c'était tout le contraire au final.
Ben, effectivement. Puis en même temps, là, quand tu embauches un entraîneur pour ton club-école, t'es supposé l'embaucher en disant « Si je suis mal pris, si j'ai besoin d'un entraîneur pour mon club principal dans une couple d'années, ça va être le profil que je recherche. » Alors que les entraîneurs qui ont été embauchés pour diriger le club-école, à part Joël Bouchard, ne répondait pas à ce profil-là, et ce qui est même le cas de l'entraîneur actuel du club école de l'équipe. Joël Bouchard est un homme de hockey de valeur qui, sous Marc Bergevin, est parti ailleurs.
On peut-tu penser que l'un des derniers clous dans le cercueil, ça a été le dossier de Keke qui a fait mal paraître le Canadien au repêchage, mais aussi sur le marché, évidemment, des agents libres, là, parce que là, on a mal paru avec les Hurricanes, mais aussi on paraît mal de par les performances de Brady Tkachuk?
En ce qui me concerne, dans la dernière année, il y a une couple de dossiers et je vous les donne en rafale.
Oui.
Pour moi, le dossier le plus important qu'a échappé Marc Bergevin, c'est Philippe Danault. Philippe Danault était la colonne vertébrale de la ligne de centre de l'équipe. On sait à quel point une ligne de centre, c'est important. Et Marc Bergevin a entré dans un conflit avec Philippe Danault qui a débouché sur une issue, sur un non-issue contractuel d'à peine un demi-million, sur un contrat d'à peu près 30 millions au total. Ça, c'est inacceptable. Quand un gars est si important pour ton équipe, quand ton entraîneur fait de lui l'attaquant le plus utilisé dans une épopée qui amène le Canadien, aussi surprenant que ça puisse être, en finale de la Coupe Stanley, et que ça finit par un patron qui adresse pas la parole à ce joueur-là pendant toute une année complète, ça, c'est inacceptable. Ensuite, il y a eu l'histoire de Logan Mailloux. L'histoire de Logan Mailloux a fait mal au propriétaire de l'équipe, parce que le propriétaire de l'équipe a dû aller sur la place publique quelques semaines après pour dire « c'est moi qui ai manqué de jugement ». Moi, je vous annonce là que si un jour votre patron est obligé d'aller sur la place publique pour dire qu'il a manqué de jugement parce qu'il vous a fait confiance, vous êtes dans le trouble.
J'avoue que dit de même, oui.
Avec la voix que tu viens de prendre, j'ai shaké, puis je suis même pas sûr. Je me cherche moi-même des bouts, là.
Non, mais je veux dire, puis là, ben après, pour compléter sur ce que vous venez de dire, il y a eu Kotkaniemi. Ouais. Le Kotkaniemi, c'est grave ce qui est arrivé, parce que c'est un gars qu'on devait identifier comme une pierre angulaire, pardon, de la reconstruction du Canadien de Montréal. On s'est aperçu une couple de mois après que c'est Brady Tkachuk qui aurait pu être aisément cette pierre angulaire-là et qu'en plus, t'as perdu l'acquis qui était Kotkaniemi. T'as reçu un choix de première ronde qui, en réalité, va être un choix de deuxième ronde parce que les Hurricanes de la Caroline vont terminer parmi les premières équipes de la Ligue nationale. Alors, ça va être un gars de deuxième ronde qu'on va repêcher.
La suite des choses maintenant, les candidats qui pourraient répondre aux exigences du propriétaire, de quoi va avoir l'air l'organigramme du Canadien dans les prochains mois?
Ben, il faut parler de l'arrivée de Jeff Gorton, qui est une... Je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde parce que c'est un Américain du Massachusetts et tout ça. Je vous rappellerai que la conjointe de M. Molson est originaire du Massachusetts. Jeff Gorton va amener quelque chose d'important chez le Canadien et pour le prochain directeur général. Dans la structure administrative qui a pris fin hier avec le départ de Marc Bergevin, Marc Bergevin se rapportait directement à Jeff Molson. Est-ce que Marc Bergevin aurait dû se rapporter à quelqu'un entre Jeff Molson et lui qui aurait eu de solides connaissances de hockey et qui aurait pu challenger de temps en temps Marc Bergevin sur des dossiers comme Andrei Markov, sur des dossiers comme Sergachev, sur des dossiers comme Radulov, sur des dossiers comme Philippe Danault, sur des dossiers comme l'embauche de Michel Therrien, sur des dossiers comme le congédiement de Claude Julien? Je pense que Jeff Gorton, pour le prochain directeur général du Canadien, va être cette espèce de tampon et va avoir l'expérience nécessaire dans le milieu du hockey pour être la personne qu'on aurait dû avoir entre le propriétaire et Marc Bergevin. Après ça, le prochain directeur général, il y a des candidats, on les connaît tous, les candidats, là, les noms, la liste est assez courte parce qu'on veut un francophone. Ou à tout le moins, on veut quelqu'un qui s'exprime très bien en français. Pas quelqu'un qui est capable de lire des phrases en phonétique, là, quelqu'un qui s'exprime en français. Alors, il y a Martin Madden Jr., qui répond à un profil de nouveau dirigeant avec un bagage académique, un bagage de hockey quand même pas banal, parce que Martin est passé par toutes les étapes. Et ça, c'est important. Un peu comme Kyle Dubas à Toronto, un peu comme Julien Brisebois à Tampa Bay. C'est quelqu'un qui est passé par toutes les étapes avant d'arriver près d'un poste de gestion. Parce que faut jamais oublier, messieurs, que c'est un poste de gestionnaire. Et aujourd'hui, en 2021, d'après moi, ça prend plus qu'avoir été dans une chambre de hockey pendant 15 ans pour obtenir ce genre de poste-là. Il y a Patrick Roy, qui est un candidat charismatique, très charismatique. Il faudrait voir si Patrick a quelque chose à offrir au niveau d'un plan de gestion avant d'embaucher Patrick Roy. Il y a Daniel Brière, qui est un outsider, complètement un outsider, qui a peu d'expérience comme dirigeant, mais qui tranquillement, pas vite, se bâtit de la bonne façon, avec une formation académique parallèlement à un travail qu'il fait dans les ligues mineures professionnelles, parrainé quand même par des gens solides à Philadelphie dans la haute direction des Flyers. Et là, ben, ajoutez les candidats que vous voudrez. Moi, je pense qu'on devra prendre notre temps dans le processus pour cette fois-ci s'arranger pour qu'un Julien Brisebois n'échappe pas aux Canadiens. Ouais.
Peut-être juste en terminant, parce que le Canadien continue à jouer malgré tout. Là, il y aura une conférence de presse aujourd'hui, mais le Canadien joue ce soir. Dominique Ducharme, se sens-tu comme un fakir, les deux pieds dans la braise ardente, assis sur un tapis de clous aujourd'hui?
Ça fait longtemps qu'il est sur la braise ardente. Ça fait quelques semaines. Là. Ça fait longtemps. Depuis le début de la saison, en fait. Là. Moi, je pense que dans les circonstances actuelles, là, le groupe d'entraîneurs, quand ils ont vu ça hier, ils se sont dit « OK, on va continuer, on va donner le maximum, mais nous aussi, actuellement, on se retrouve à compter de maintenant en évaluation. » Et c'est bien que ce soit comme ça. C'est bien que ce soit comme ça parce que si on décide de poursuivre, si le prochain directeur général décidait de poursuivre avec Dominique Ducharme comme entraîneur-chef, c'est parce qu'il va l'avoir mûri, il va l'avoir évalué, puis il va savoir exactement que Dominique Ducharme est le coach que ça lui prend. Chez le Canadien, on ne doit plus faire des décisions sur le base des émotions.
Martin McGuire, merci beaucoup. Toujours super intéressant.
Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée.
Oui, bonne journée.
Elle n'est pas finie.
Non,
bien sûr. Elle ne fait que commencer.
Ah oui, j'imagine. Salut, merci.
Salut.
Martin McGuire, 7h42, qui effectivement va avoir toute une journée parce que...
Quel homme! Le ton, hein? J'avais l'impression, là, que... Ça m'a ramené au 12 mars 2020.
Oui.
J'ai l'impression qu'on est en train de farmer la province.
L'enfer du Canadien.
Il était incroyable. Non, mais il était intéressant à écouter.
Oh, oui, absolument.
Il était en feu, là, le ton. J'avais l'impression que... Aïe, puis on l'a sur nos ondes, on est chanceux.
Oui, absolument. Ben, on le dit toujours, là, mais dans les descripteurs hockey, on s'entend
qu'il
y en a trois qui font cette job-là au Québec. Mm. Ben, c'est le meilleur des trois.
Aïe, ça m'a ramené comme la fois de Pacioretty sur la glace où je pensais qu'il était mort. Ah non, il est un ton.
Mais tout ça, puis ce que Martin McGuire disait est intéressant, puis ça confirme un peu ce que je pouvais avoir comme discussion à micro fermé avec des joueurs. Certains joueurs... que je nommerai pas, qui sont déjà passés dans l'organisation du Canadien et qui me disaient « Bergevin, ça fait ou ça fait pas? » Avec les joueurs. Il y a des joueurs avec qui ça fait pas. Puis quand il te prend la grippe, c'est terminé. Puis c'est cette impression-là qu'on a quand on regarde sa gestion. Markov, ça s'est fait vite. Tu sais, Radulov, ça s'est fait vite et bizarrement aussi. Tu sais, dans le cas de Philippe Dano, ça a été spécial.
De la façon dont Martin nous l'a raconté.
Charles Hudon, rappelez-vous, Charles Hudon avec le Canadien, saison de 37 points, puis après ça, d'un mineur, puis tu remontes pas mon pit, puis on te laisse là, puis on t'échange pas, puis lui, il demande une transaction, mais on t'échange pas pareil. L'impression que des fois, quand il en prenait un en grippe, il le prenait en grippe, c'était terminé.
Écoute,
les ponts sont coupés et c'est fini.
Énuméré de la façon dont Martin vient de nous le faire, c'est effectivement catastrophique.
Puis ça, à un moment donné, le mot se passe aussi. Puis il y a des joueurs qui s'est fait. T'sais, Price, là, doit ne jurer que par Bergevin. Et l'inverse est aussi vrai. Même chose pour Shea Weber. Mais Piqué, ça n'a pas fait. Hein. Ça faisait pas. Pacioretty, ça faisait pas. 7h44.
Le show du matin. On revient dans quelques minutes. 95.7 Kick Saguenay.